Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une folle histoire de la folie qui nous interroge aussi sur son avenir. Ce sera à partir de 12h55 avec notre invité, le psychiatre Patrick Lemoine, spécialiste du sommeil et de la mélancolie, co-auteur avec Boris Cyrulnik d'une histoire de la folie avant la psychiatrie qui paraît chez Odile Jacob. Mais d'abord, le Satouf nouveau est arrivé et le tome 4 de l'Arabe du futur est plus épais que jamais. En tête de gondole déjà chez les libraires, tiré à 250 000 exemplaires en France. Sa série aussi, Les Cahiers d'Esther, est adaptée en mini-série et une expo lui est consacrée à la BPI. C'est 100 années, Riyad Satouf, encore une. Le dessinateur, auteur, réalisateur est notre invité. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, en podcast sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Salut René, j'aimerais bien être comme lui quand je serai grand, avez-vous écrit hier sur les réseaux. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour Olivia Gesbert.
Pilier du Canard Enchaîné, grand dessinateur de presse et auteur de BD, le talentueux et si pudique René Pétillon est décédé hier à l'âge de 72 ans, breton du Finistère. C'est sur les routes de Corse qu'il enverra enquêter son détective privé Jack Palmer, avec l'enquête Corse sortie en 2000, prix du meilleur album au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, adapté au cinéma. Avant de terminer l'aventure chez lui, dans Palmer, en Bretagne. Génial, modeste, drôle, lucide, ultra beau, avez-vous ajouté. Les idées passent toujours par le dessin, disait-il, et on est sûr que vous serez d'accord avec lui.
Ça passe par le dessin, en fait. Je cherche le personnage en dessinant, et puis, s'il est raccord avec ce que j'avais à peu près en tête, là, ça se précise, et les dialogues viennent. C'est une espèce de cuisine, comme ça, très bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai besoin de dessiner pour que le personnage prenne de l'épaisseur, de l'existence. Pas par rapport à certains de mes confrères qui sont de très grands dessinateurs, de très grands artistes, je me sens, effectivement, assez humble de ce côté-là, parce que, je trouve que mon dessin est efficace au service du récit. Quoi. Je m'attache à ce que le récit prime et c'est mon souci permanent. Est-ce que ça colle avec l'histoire? Est-ce que ça fait avancer l'histoire, etc. Mais je me pose pas de problèmes graphiques purs, voyez.
Et dans un entretien, René Pétillon, il avait dit qu'il vous admirait, vous, Riyad Satouf, énormément. Visiblement, c'était réciproque.
Oui, bien sûr. Non, René Pétillon, c'est vraiment un des plus grands. Bon, on ne peut pas parler de lui au passé, mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pétillon. En fait, quand j'ai commencé à faire des dessins, je galérais pour faire des livres, etc. Et c'est vrai que je garde toujours une première. Disons que la première chose, enfin, comment dire, la première idée que je me fais des gens que je rencontre, c'est souvent la première fois que je les rencontre, quand je faisais rien. Et en fait, Pétillon était adorable. Je lui avais montré mes dessins. Je me rappelle, il avait regardé. Enfin, il était très humble, très modeste. Il était, alors que c'est un géant, quoi. Tu vois, voilà, je voulais lui envoyer ma bande dessinée, mon tome 4. Je savais qu'il n'allait pas bien et j'ai même pas eu le temps.
Et alors, vous avez l'un et l'autre dans le dessin, cette humilité aussi, cette incertitude du trait. Vous dites souvent que pour vous, le dessin, c'est pas forcément ce qui vous rassure le plus, la confiance que vous portez dans votre crayon, mais plutôt dans votre capacité aussi à raconter des histoires et à les mettre en forme. Ça, c'est peut-être une braise touche ou braise attitude. Vous étiez et vous êtes tous les deux bretons.
Oui, c'est vrai que ce que dit René Pétillon dans l'extrait que vous avez diffusé est tout à fait vrai. Et je dirais que je copie exactement ce qu'il fait, c'est que le dessin pour moi est uniquement un moyen de raconter l'histoire et d'être le plus direct et efficace possible. Voilà, j'essaye tout le temps d'éviter de montrer que je saurais dessiner, voilà. Donc le dessin est une écriture, la bande dessinée est une écriture, c'est une langue et j'essaie toujours de limiter toutes les esbroufes ou les tentatives d'esbroufes. C'est très facile, c'est souvent tentant de montrer qu'on est fort ou je sais pas, voilà, et ça va souvent à l'encontre du récit. Enfin, c'est mon avis.
Riyad Sattouf, Cabu, Volinsky, Gottlieb et aujourd'hui Pétillon, même s'il avait 10 ans de moins, c'est une autre génération qui s'en va et avec vos compères d'une certaine manière, Johann Sfar, Christophe Blain, Blutch, c'est une autre génération qui prend le relais. Sur le fond, dans vos albums, dans ce que vous avez envie de raconter avec vos dessins, est-ce que vous avez le sentiment que vous partagez les mêmes combats ou que c'est une autre histoire que vous racontez, vous, aujourd'hui ?
Ah, c'est très peu intellectualisé, je suis touché par ce que vous dites, mais c'est vrai que quand, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'écris mes histoires, je pense pas à l'importance qu'elles pourraient avoir ou leur place, ou etc. J'essaie vraiment de faire les meilleurs livres possibles. Ça, c'est ce qui m'obsède en premier lieu toute la journée, même la nuit. Enfin, voilà, j'essaie de pas du tout penser à ça.
Mais on dessine forcément pas la même chose quand on est un enfant des années 80, fin 70, 80, que quand on est un enfant de l'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres, ce qui était le cas de Cabu, Volinsky, Gottlieb. L'Arabe du futur chez Alary Éditions, c'est une chronique sociale et familiale racontée à hauteur d'enfant, née il y a 4 ans, comme une renaissance, puisque le premier volume s'ouvre en 78, année de votre naissance, Riyad Sattouf, et nous balade sur 6 ans entre la Libye et la Syrie où vous avez grandi. Le petit Riyad, lui aussi, il pousse. Au début de ce quatrième volet, il va avoir 10 ans. À la fin, c'est un collégien boutonneux de 14 ans. Il vit maintenant en Bretagne. Il va au collège, retourne en Syrie pour les vacances. Son père enseigne à Riyad en Arabie Saoudite. Sa mère cherche du boulot. Elle s'occupe de ses 3 enfants, aidée par les grands-parents. Et le petit Riyad, il désapprend l'arabe, il dessine, il reste bon élève, il aime Conan le Barbare, les jeux vidéo, il commence surtout à regarder les filles. L'Arabe du futur, il est fier de ce qu'il est, cultivé, en tout cas c'est comme ça que votre père voulait vous bâtir, mais finalement il va devenir un Français avec un nom d'arabe. « T'es pas un vrai arabe », lui dit un pote skater, et donc pas un vrai Français non plus, Riyad Sattouf.
Mais c'est vrai que cette place de l'identité est quelque chose qui a toujours été assez compliqué, et c'est aussi ce que je raconte dans l'Arabe du futur, parce que quand j'étais en Syrie, dans mon village de Termale, mes copains, mes cousins ou les autres élèves de l'école ne me considéraient pas du tout comme l'un des leurs, en fait. Comme j'avais des origines étrangères, ils mettaient en doute mon appartenance à leur groupe, et donc j'étais pas un vrai arabe, j'étais pas un vrai musulman, j'étais pas un vrai syrien. Et quand je rentrais en France, j'étais pas non plus un vrai français, parce que j'avais un nom à consonance ridicule avant d'être à consonance arabe, en fait, parce que les gens n'identifiaient pas tout de suite que c'était arabe. Sattouf, ça fait pas arabe tout de suite. Donc c'est vrai que cette mise à l'écart, disons, ou au moins cette expérimentation de la mise à l'écart m'a toujours placé en position d'observateur, et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. J'ai du mal à me sentir appartenir à un groupe.
Sattouf, Matouf, Tattouf.
Ça va, salut Sattouf, Matouf, Tattouf, votre touf, ça va ou quoi? Il y avait un mec, tous les matins, il m'appelait, il me disait ça. Mais en même temps, c'est rigolo. Je pense que si je m'étais pas appelé Sattouf, peut-être ça m'aurait fait rire aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait, il y a des noms qui me font rigoler aussi. Je lui jette pas la pierre, mais c'est vrai que quand on essaie de se faire accepter, etc., c'est toujours compliqué quand on... Voilà, j'ai jamais expérimenté d'insultes racistes. Par exemple, personne ne s'est jamais moqué du fait que j'étais d'origine arabe, mais plus du fait que j'avais un nom ridicule, Griade, etc. Enfin, voilà.
Alors, pas un vrai Français en France, pas un vrai arabe non plus en Syrie, vous, Riyad. Il se fait traiter de juif, de mécréant, promis à Satan par ses méchants cousins quand il est là-bas, dans son village près de Homs, en Syrie. Quand ces questions d'identité ont commencé à sonner vrai, juste en vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes clair avec ce que vous êtes ?
Oui, je pense que je suis assez clair, notamment parce que je peux faire des livres et que j'en fais toute la journée et que c'est ma vie. En fait, je me suis rendu compte que le nombre d'années qui me séparaient du moment où j'ai commencé à faire des livres était bien plus important que le nombre d'années qui me séparaient entre le moment où j'ai commencé à faire des livres et mon enfance. Ce qui fait que j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma vie à faire des livres qu'à être un franco-syrien ou un enfant en Syrie. Donc maintenant, mon identité, c'est de faire des livres. Et c'est vrai que comme c'était très compliqué de choisir entre ces deux cultures ou de les allier ou de les mélanger ou de vivre avec les deux, moi, je me suis choisi une autre identité qui est celle de faire des livres et de raconter des histoires. Et très tôt, j'ai admiré les dessinateurs. J'aimais le fait qu'ils se mettaient un peu à l'écart du monde et qui dessinaient, qui à la fois pour gagner leur vie, pour s'évader, pour raconter des choses qu'ils ne pouvaient pas raconter dans la vraie vie. Et j'ai choisi très vite que c'était mon peuple. Voilà. C'est ce que je dis souvent. Je me sens beaucoup plus proche d'un Japonais qui fait des bandes dessinées toute la journée que de mon voisin, par exemple, qui peut être un Français qui s'appelle Martin. Enfin voilà, j'ai pas du tout cette conscience de l'identité nationale. Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
Patriotique, national.
Ouais, patriotique, ouais. Voilà.
Et vous avez été travaillé, vous le racontez évidemment vachement bien dans l'Arabe du Futur 4, par un autre conflit d'identité, toute votre adolescence et pré-adolescence. C'est cette identité du genre, comme on dit aujourd'hui. Comment se construire au milieu d'injonctions aussi contradictoires que celles qui vous étaient distribuées par votre père et celles qui vous étaient mises en avant par votre grand-père? C'est complètement différent, pas du tout la même conception du masculin, mais les deux, vous disiez, soit un homme, mon fils, hein, d'une certaine manière. Pas un vrai mec non plus, avec vos cheveux longs, votre voix efféminée. Vous étiez nul au foot. Vous faillotez avec la maîtresse. Vous dessinez toute la journée.
Oui, c'est vrai. Oui, mon père m'expliquait, enfin, c'est ce que je raconte dans ce volume 4, que pour être un homme, un vrai, il fallait que j'évite les femmes parce qu'elles étaient des tentatrices et les suppôts de Satan. Et de l'autre côté, j'avais mon grand-père français qui lui me disait, pour être un homme, un vrai, il fallait absolument que je commence à y aller avec les filles et que je commence à les regarder. Et moi, je dois bien avouer que dans les deux cas, les filles m'intéressaient absolument pas. Je ne voyais absolument pas m'intéressait pas, c'est-à-dire j'étais pas attiré par elle particulièrement. Ça arrivait un peu plus tard avec le déchaînement des hormones, mais c'est toujours j'ai eu très tôt conscience de cette différence d'appréciation vis-à-vis du genre que tous les différents membres de ma famille avaient. Et je me suis dit, mais qui peut bien avoir raison dans tout ça? C'était assez compliqué. Je pense que c'est quelque chose qui expérimente beaucoup de jeunes. En plus, mon grand-père français avait extrêmement peur que je devienne homo. Enfin, les deux avaient peur de ça. Et comme j'avais une voix un peu efféminée, que j'aimais les arts, que j'étais très ému quand je lisais des livres, etc. Et c'était la grande terreur de toute ma famille que je sois homo.
Mais il a été très rassuré quand vous avez commencé à follement admirer Cindy Crawford. C'était aussi une référence pour les filles à l'époque, puisqu'on est de la même génération. Et Arnold Schwarzenegger de l'autre côté, pour les référents masculins.
Bah, disons qu'en effet, c'est arrivé dans l'espace de quelques mois. Je me rappelle, mon grand-père me montrait une femme qui marchait devant moi et me disait... Regarde les belles jambes qu'il y a là. T'as vu ces jambes là? Et je regardais ces jambes, et pour moi, je ne voyais absolument pas ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dans ces jambes. En fait, je les trouvais même pas spécialement jolies. Et dans l'espace de deux mois, je pense, en même temps que les boutons d'acné apparaissaient, et que je me rendais compte que j'avais beaucoup plus de mal à me contrôler, les filles sont devenues des objets que je pouvais pas faire autrement que voir dans la rue. Voilà, j'ai été pris dans un tourbillon, et donc en effet, j'étais extrêmement fasciné par Cindy Crawford, et j'affichais ces photos partout dans ma chambre, aussi pour rassurer ma famille sur le fait que j'aimais vraiment les filles et qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent. C'était assez pathétique, je dois l'admettre.
Riyad Satouf, on voit aussi à travers l'histoire de vos parents, et là on passe à un sujet un peu plus grave, l'impact des événements sur l'intimité du couple, sur la famille tout entière. Hein. On le disait, vous étiez baladé de la Syrie à la France, entre la France où vous étudiez, la Syrie où vous passiez vos vacances, mais dans le poste de télévision, on voit aussi l'invasion du Koweït et la première guerre du Golfe. Votre père, il était plutôt nationaliste, obsédé par le panarabisme, marqué par des figures, entre guillemets, d'autorité, comme Nasser, comme Kadhafi, comme Saddam Hussein. Quand elles se sont effondrées, c'est toute sa construction, sa vision du monde à lui qui s'est fissurée quand ses régimes sont tombés. Quand ces figures se sont craquelées.
Oui, sans doute. Après, c'est vrai qu'il admirait Saddam Hussein, il admirait Hafez al-Assad, Kadhafi. Il les admirait aussi parce qu'il pensait être de leur trempe, quelque part. Et c'est vrai qu'il a passé toute mon enfance à me répéter qu'il n'y avait rien de plus beau que de faire un coup d'État et que c'était le moment extraordinaire où on changeait l'histoire, on changeait la voilà, il était complètement nationaliste, il était d'extrême droite, c'était vraiment un arabe d'extrême droite.
Et qui admirait Le Pen en France.
Il admirait Le Pen, enfin il considérait que Le Pen était le seul représentant de la France, c'était le nationaliste français. Et c'est vrai que quand Jean-Marie Le Pen a rencontré Saddam Hussein au moment de l'invasion du Koweït, pour lui c'était naturel, enfin il y avait quelque chose de très naturel. Il méprisait les socialistes, les communistes, les hommes politiques français. Voilà. Mais en même temps, il était très content que la France échoue aussi. Et c'est vrai que quand Saddam Hussein a perdu, c'était un profond désarroi pour lui, parce que non seulement l'homme qu'il admirait s'effondrait, mais en plus son analyse politique ou son analyse historique échouait aussi, parce qu'il était persuadé que personne n'oserait s'opposer à Saddam Hussein.
De la difficulté, Riad Sattouf, de parler, même des années après, de son père. Écoutez ce qu'en dit l'écrivain Sorge Chalandon, qui a beaucoup écrit sur le sien.
Lorsqu'on est un peu petit, un peu bec, et qu'on arrive à l'école le matin, quand on demande profession du père et qu'on répond agent secret, c'est un formidable solitude pour un enfant dans une école.
On s'est moqué de vous à ce moment-là?
Bien sûr, parce que personne ne peut penser que c'est le père qui ment. Celui qui ment, c'est l'enfant qui parle. Donc personne ne peut s'imaginer que derrière tout ça, il y a un père qui fait croire à l'enfant qu'il est agent secret. Évidemment, j'ai fait lire ce livre à mon frère tout de suite, et il m'a dit « qu'est-ce que j'ai ri ?» Et vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui me disent que c'est un livre drôle, et ça me va. C'est-à-dire, pour moi, c'est un livre qui est terrifiant, mais la folie d'un homme, le délire d'un homme peut être drôle, et je suis absolument... Ce rire-là, c'est un peu ma revanche, en fait.
Et c'est vrai qu'il y a des passages aussi extrêmement drôles dans l'Arabe du futur, quand vous décrivez votre père, ses colères, ses emportements, ses passions aussi, puis en même temps la tendresse, l'attention qu'il portait à sa famille. Vous avez eu toutes ces années-là plutôt honte de votre père, ou vous en étiez fier enfant?
Non, j'avais pas vraiment honte, j'étais de moins en moins sans doute fier de lui. Disons que je me suis rendu compte peu à peu que tout ce qu'il racontait n'était pas digne d'honneur spécialement. Voilà, mon père a toujours été extrêmement antisémite, par exemple, extrêmement raciste. Quand j'étais très tout petit, ça me semblait naturel, en fait, puisque tout ce qui vient des parents est la vérité. Et en grandissant, je me rendais bien compte que c'était aberrant et qu'il était transporté par des passions qui l'emmenait vers une sorte d'abîme. Enfin, je sais pas, ça m'a semblé incohérent, mais je l'ignorais. Et c'est vrai que comme il était finalement souvent pas là, je faisais comme si je voulais pas voir la vérité aussi, quelque part.
Le personnage de votre père reste central dans ce tome 4, dans ce volume 4 de l'Arabe du futur, Riad Sattouf, par son absence, puis aussi quand il est là, par ses motées de colère, comme on le disait, ses saillies, son rapport compliqué à l'argent, sa conversion à un islam plus dur, après son pèlerinage à la Mecque, son rejet de la France, dans les grandes lignes. Mais dans ce volume 4, c'est surtout votre mère qui se met à exister réellement. Elle qui était si effacée jusqu'à présent, elle prend vraiment de l'épaisseur, elle lève la voix, elle se bat aussi pour ses enfants. C'est un hommage à la mère, cet album?
Oh, ça peut être, mais c'est vrai que c'est pas intellectualisé de cette façon-là, parce que je raconte des faits tels que je m'en rappelle. Alors, dans ce volume 4 de l'Arabe du futur, il y a le secret familial que j'ai gardé sans jamais en parler, et qui a été la raison principale pour laquelle je me suis aussi lancé dans l'Arabe du futur. C'est un petit peu j'aime pas trop dire trou noir, mais l'espèce d'étoile sombre autour de laquelle gravite toute la série de l'Arabe du futur, et qui a été un événement fondateur, parce que finalement, en effet, à un moment, mon père a fini par faire un coup d'État. Un coup d'État familial, je vais pas spoiler, mais et c'est vrai qu'on m'a souvent dit, voilà, le personnage de la mère est un petit peu derrière le père. Ma mère a toujours suivi mon père tant qu'il s'entendait correctement, et ma mère espérait que mon père devienne très très riche. Et là, voilà, il s'effectue une sorte de bascule. Je pense que c'est un climax et un tournant dans l'histoire.
Un mot du graphisme, un mot de votre palette. La Syrie a sa couleur, le rose, la Bretagne aussi, le bleu. En revanche, l'amour, le désir et la violence, la haine, la douleur doivent se partager la même couleur, le rouge vif. Pourquoi?
C'était très simple, parce que j'ai vraiment... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai grandi en Syrie où il y avait beaucoup de contraintes? Je ne sais pas. Mais je me suis toujours imposé beaucoup de contraintes pour mes livres et dans mes dessins, pour me forcer à utiliser le moins d'éléments et de choses possibles. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire l'Arabe du futur, je me suis rendu compte que la Bretagne, la Libye, la Syrie avaient des couleurs dominantes dans mes souvenirs. La Bretagne, c'est le bleu de la mer. La Syrie, c'est le rose de la terre qui était très ferreuse. La Libye, c'est le jaune du sable et du soleil éblouissant. Et pour chaque pays, je me suis aussi autorisé d'utiliser les couleurs du drapeau. Pour faire écho au nationalisme du père et à cette obsession politique permanente. Donc voilà, le rouge, c'est une couleur qui est présente dans quasiment tous les drapeaux du Moyen-Orient. Il n'y a pas de bleu dans les drapeaux du Moyen-Orient, à part dans le drapeau israélien. Et je trouve que ça a un sens, ça a des symboles. Les couleurs ont des symboles, ont des sens. Et de me limiter comme ça dans les utilisations, c'est quelque chose qui permet d'être plus direct et plus expressif, je crois.
C'est votre grande table du lundi et il est midi 21 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
lui, c'est Riyad Satouf, dessinateur, auteur, réalisateur aussi, des Beaux Gosses de Jackie et le Royaume des Filles et des Cahiers d'Esther. En son, ça donne ça.
Putain, mais il est plus moche que nous, lui, non?
Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec.
T'es capable d'aller l'embrasser là tout de suite?
Tu me prends pour un mytho ou quoi?
J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi.
Non. Non, mais t'as vu ta gueule?
J'étais comme toi à ton âge. Hein. Hey, tu mets des capotes, j'espère, hein, t'oublies pas.
Mais ouais, t'inquiète, une fois j'en ai mis deux, alors ça reste de rien.
Tu peux baisser la musique arabe là?
Putain, frappe, merde!
Tu sais quoi? Tu te masturbais?
Elle veut ton corps, elle veut ton corps, elle veut ton corps, mec!
N'importe quoi!
C'est le plus beau jour de ma vie. La serrer comme un homme. Comme un homme, ça fait bizarre de voir ça.
Hey, je peux pas éviter de raconter mes histoires perso à tout le monde là?
Oh là là, mon chéri adoré.
Ah, oula! Mais entre nous, c'est super sérieux. On a parlé de faire des enfants et tout.
Ouais, mais ça, c'est pas qu'en roulant des pelles que ça arrive. Il faut mettre la saucisse, mon vieux.
Je crois que j'ai traumatisé.
Tu l'as niqué?
Bah ouais.
Ah ouais?
Eh ouais, elle faisait.
Ah, Hervé! Ah, merci de me faire jouir! Ah,
Sérieux?
Non, t'es con, quoi.
Alors lui, c'est Vergio. Il a 19 ans. Regardez comme il est beau, il est sublime. Et puis lui, il est là.
Fais attention, toi!
Arrête de rire.
J'entends les puissances étrangères dire en République populaire et démocratique de Bubune, les hommes n'ont pas de voix.
Comme c'est charmant la timidité.
Je m'appelle Esther et j'ai 9 ans. J'habite à Paris dans le 17e arrondissement. Dans ma famille, on est vraiment heureux, on n'a pas de problème. Franchement, on s'entend tous assez bien.
Bah non, j'entends encore la musique de merde d'Esther à travers son casque. Tu peux lui dire de baisser, là?
Je suis en CM1 dans une école privée. Ça veut dire payante. Mon père dit qu'à mon âge, c'est mieux par rapport à la violence des garçons. Ils sont tellement cons.
Mais un legging qu'on voit ton cul, espèce de démodé.
Le métier que je rêve de faire plus tard, c'est chanteuse. Chanteuse célèbre, comme Chaïm par exemple. C'est une brune à la voix d'ange.
On dirait que tes jambes, elles sont détachées.
La pure souplesse, sa mère.
Ouais, j'ai bien.
Esther, elle a carré, quoi.
Sinon, est-ce que quelqu'un de vous sait ce que c'est, Youpan?
Quelle est la bonne distance à maintenir entre soi et entre le récit de soi, Riyad Satouf? Il y a un peu de vous dans tous ces extraits, dans ces trois films, deux en prise réelle, un en animation, Les Cahiers d'Esther. C'est un dessinateur qui vous est cher, Chris Ware, l'Américain, qui nous disait que, en fait, on n'a que ça, la mémoire, pour réviser nos souvenirs et créer une certaine conception de nous-mêmes. C'est vous qui avez bâti, à travers toutes ces fictions, ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être cet arabe du futur.
Quand on écrit des histoires, en tout cas, je sais que personnellement, quand j'écris des histoires, j'essaie toujours de mettre des choses ou de mes souvenirs ou de mon histoire personnelle ou de ma... Déjà parce que c'est la seule chose que j'ai vécue et c'est très difficile pour moi de mettre à la place de personnages fictifs. C'est pour ça aussi que je garde toujours le lien avec le réel et que, enfin, un certain réel. Par exemple, dans l'Arabe du futur, j'ai changé tous les noms des personnages pour les mettre plus à distance et pour pouvoir les regarder peut-être plus honnêtement. Alors, les deux seuls noms que j'ai pas changés, c'est le mien et le nom du chien de ma grand-mère, qui s'appelait vraiment Moustique. Et je m'en suis rendu compte après. Tous les autres noms, même les visages, parfois je les change pour essayer de les mettre à distance. Mais c'est quelque chose qui est pas vraiment intellectualisé non plus. J'ai besoin, quand je regarde mes livres, de savoir que je suis dedans aussi. J'arriverai pas à faire des choses de commande, par exemple.
Mais les souvenirs sont fragiles, Riyad Satouf. Donc vous puisez aussi dans vos émotions d'enfance, peut-être plus que dans des détails très précis qui vous seraient restés de ces années-là, non?
Bien sûr.
En sens, vous vous réinventez, c'est une fiction de vous-même, tout ça.
Mais je me rends bien compte que je pense que je n'en parle pas vraiment de choses qui sont réellement arrivées, c'est des choses qui sont dans ma tête, en fait. Et c'est rigolo parce que quand des proches à moi ont lu L'Arabe du futur, il y a certaines scènes qu'eux ont vu de manière complètement différente. Et j'aborderai ça dans la suite des livres, parce que c'est quelque chose de très subjectif, en fait. J'en suis bien conscient et je me rends bien compte que ma mémoire modifie les choses, oriente les choses. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai besoin d'exprimer, et parce que c'est ce que j'ai dans la tête et c'est le truc avec lequel je vis tous les jours.
Chaque semaine dans l'Obs, Riyad Satouf, édité en BT, les cahiers d'Esther viennent d'être adaptés en mini-série pour la télé diffusée depuis début septembre sur Canal. Vous l'avez co-réalisé, cette mini-série, avec Mathias Varin et les équipes de Folimage, le studio d'animation de Jacques-Rémy Girard. Et vous avez mis du temps avant de retrouver aussi l'animation, vous, l'ancien étudiant des Gobelins. C'est assez étonnant que la première fois que vous ayez rêvé cinéma, vous avez pensé les images en prise de vue réelle et que sont nés d'ailleurs les beaux gosses. Content d'avoir retrouvé cette animation, mais qui ne vous a pas tout de suite parlé.
Bon, disons que le fait que j'ai, mon premier film, ça a été une rencontre avec la productrice Anne-Dominique Toussaint. C'est elle qui m'a proposé de faire un film, qui m'a ouvert les portes du cinéma en prise de vue réelle. Je n'aurais pas trouvé le chemin pour y aller. Je me suis battu comme un fou pour faire des bandes dessinées, mais pour faire des films, je savais pas. Ça a été vraiment un hasard. Et le dessin animé. J'ai été étudiant en cinéma d'animation et c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que ça coûte très cher à faire, c'est très difficile de faire une œuvre personnelle en animation. Il y a beaucoup de séries qui sont faites, mais avec des personnages. Moi, c'était la bande dessinée, ma passion. C'est vrai que j'ai mis 20 ans avant de faire de l'animation, mais aussi parce que ça s'est présenté comme ça et que je me suis retrouvé à un moment avec une proposition qui m'a semblé. Formidable, qui était une liberté totale de la part de Canal+, qui m'a laissé faire la série dont je rêvais, et un super studio d'animation qui était Folimage, un merveilleux co-réalisateur qui était Mathias Varin. Voilà, je pouvais pas faire autrement que me lancer dans cette série. Mais après, je voulais pas lâcher mon bébé non plus, donc j'étais relou.
Il paraît, mais vous le dites vous-même. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'avec Les Beaux Gosses, vous inventez, avec Les Cahiers d'Esther, du coup, vous adaptez. Et il fallait que la série, visiblement, corresponde au millimètre près à la bande dessinée. Pas une virgule, et d'ailleurs, des dialogues, j'ai pu comparer, ont changé. Vous avez tout mis en bulle, finalement. Vous l'avez animé, ce que vous aviez dessiné auparavant. Il fallait garder la paternité totale du projet.
Oui, c'est vrai que c'était très important pour moi que ce soit pas autre chose que ce que j'ai imaginé. Je sais plus si c'est Hergé qui disait quelqu'un d'autre pourrait refaire Tintin, ce serait sans doute mieux, ce serait sans doute peut-être moins bien, mais ce ne serait pas Tintin. Et en fait, je crois que c'est une très bonne façon de voir les choses. Voilà, moi, Les Cahiers d'Esther en animation, je voulais que ce soit tel que je l'imaginais, que ce soit très respectueux des livres et surtout pas autre chose.
Voilà. Si on met en dialogue Les Cahiers d'Esther avec l'Arabe du futur dans l'enceinte de l'école, certes, l'iPhone 6 a remplacé l'Amiga 500, mais la cruauté comme les rêves des filles et des garçons n'ont pas tellement changé. L'an dernier, vous aviez pris plus ou moins les rênes du magazine Paris Match pour un numéro unique, avec Esther, votre jeune héroïne en une. Et si c'était elle, la Française du futur, interrogiez-vous. Vous vous demandez souvent comment elle va grandir, si elle est la vraie représentante de cette génération qui aura bientôt 20 ans.
Mais c'est un de mes centres d'intérêt aussi en tant qu'adulte, ou citoyen, si on veut. J'adore observer les jeunes, la façon dont ils grandissent, comment se construisent leurs valeurs morales, leurs jugements. Alors c'est vrai que dans l'Arabe du futur, je me mets en scène personnellement dans cette situation-là. Et dans Les Cahiers d'Esther, j'avais envie de donner à quelqu'un d'autre sa vision sur les jeunes. Alors Esther me raconte son quotidien, sa façon de voir le monde. C'est pas toujours la mienne, c'était pas non plus celle que j'avais quand j'avais son âge, mais c'est une autre vision que je trouve très intéressante à observer, déjà en tant que personne, pas seulement en tant qu'auteur. Maintenant que j'ai 40 ans, j'ai vu plusieurs générations de jeunes se construire. C'est toujours intéressant de voir les points communs et les différences.
Merci beaucoup Riyad Satouf. L'Arabe du futur. Merci. 4 vient de paraître chez Alary Éditions. On peut retrouver aussi en bande dessinée Les Cahiers d'Esther chez Alary toujours. Une exposition vous est consacrée à la BPI et la mini-série Les Cahiers d'Esther est à voir sur Canal. Je crois que vous vous intéressez toujours à la psychanalyse. Eh bien, écoutez d'une oreille la deuxième partie de l'émission ou des deux oreilles. À suivre dans La Grande Table, la folie a-t-elle un avenir ?